Vous êtes avec SBS French.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin, ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes, ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
Et tout d'abord, les grands titres de ce 17 avril. Demain, lundi, c'est le dernier jour pour que les Australiens s'inscrivent pour voter lors des prochaines élections fédérales. Les élections auront lieu le 21 mai prochain. L'élection présidentielle en France, la campagne se poursuit avant le deuxième tour. Emmanuel Macron était à Marseille hier et Marine Le Pen était à Saint-Rémy sur Avre. Demain, lundi, c'est le dernier jour pour que les Australiens s'inscrivent pour voter lors des prochaines élections fédérales. Les élections, je rappelle, auront lieu le 21 mai et le vote anticipé commencera le 9 mai prochain avec la possibilité de voter dans l'un des 500 bureaux de vote ou d'en envoyer un par courrier jusqu'au mercredi précédant le jour du scrutin, c'est-à-dire le 18 mai. Si un électeur reçoit un diagnostic de COVID-19 ou est devenu un contact étroit dans les deux jours avant l'élection ou le jour de l'élection, il devra voter par téléphone. Mais Evan Ekin-Smith de la Commission électorale australienne affirme que cette option est un dernier recours.
We're encouraging Australians only to access this service if they're eligible, and that's incredibly important. It is an emergency measure. It won't be smooth. The wait on the line for a telephone vote will be longer than the wait in a queue at a polling place. So if people are thinking that this is a convenience option, I can just call up, that's not what it's there for.
Le Parti des Verts affirme qu'il peut remplacer les exportations australiennes de charbon et de gaz par une énergie plus verte. Le chef du parti, Adam Bent, a déclaré que le parti se présenterait aux élections avec une politique interdisant toute nouvelle exploitation de charbon ou de gaz. Adam Bent a déclaré au Nine Network qu'il faudrait que le pays se mette en place pour exporter des éléments tels que l'énergie solaire, l'énergie éolienne et l'hydrogène vert.
There's really exciting opportunities for Australia in actually selling our sun and our wind. And one of the big opportunities for us is in areas like green hydrogen, where all of our big trading partners, like 3/4 of our exports go to 3 countries. And they've all said that they're moving to net zero by the middle of the century. And if you dial back from that, that means that by 2030 or 2040, they don't want to use coal for energy anymore. So we've got to have something to take its place.
Le chef de l'opposition fédérale, Anthony Albanese, dit que l'un des contrastes saisissants entre les principaux partis lors de cette élection est que le Labour s'engage en faveur du changement climatique. Anthony Albanese dit que le plan du Labour soutiendrait 52 milliards de dollars d'investissement du secteur privé dans des produits respectueux de l'environnement, protégerait les emplois qui dépendent de la Grande Barrière de Corail et réduirait les émissions de gaz à effet de serre de 43% d'ici 2030.
If you want action on climate change and you want to end the climate wars, then people need to vote for the party that has a policy that's been supported not just by the Business Council of Australia, not just by Australian Chamber of Commerce and Industry, not just by the National Farmers Federation, the Australian Industry Group, the ACTU. It's one that has overwhelming support, I believe, from the Australian community, who understand that these events are making an impact on everyone's lives and that we need to act on it.
Le gouvernement fédéral s'engage à financer 273 millions de dollars pour aider les personnes atteintes de diabète de type 1. Le gouvernement financera la surveillance continue de la glycémie, affirmant qu'une telle décision permettra à 71 000 Australiens touchés par cette maladie d'économiser 5 000 dollars par an. La ministre des Pensions de retraite et des services financiers, Jane Hume, a déclaré sur Sky News que le gouvernement ne pouvait pas se permettre de prendre de tels engagements pour aider les gens s'ils ne géraient pas bien l'économie australienne.
But that's what coalition government is focused on issues that are most important to voters, their futures, their lives, and what's important to them. And the health announcements today are just part of that. You know, without delivering a strong economy, we couldn't make the commitments to health that we have.
La guerre en Ukraine, le président ukrainien Volodymyr Zelensky affirme que le monde doit se préparer à la possibilité que la Russie utilise des armes nucléaires. Il dit qu'on ne peut tout simplement pas faire confiance à la Russie.
І не треба чекати від Росії, коли вона буде використовувати ядерну зброю.
There is no need to wait from Russia when it uses the nuclear weapon. The world doesn't need to wait. The world needs to prepare for that in a number of ways. But also, there is a need to talk to them, to sign a paper, to squeeze their economy so that they don't even have a thought about it. That's what I mean. And they can use any weapon, I'm sure of it, any weapon, and you can't trust them.
Volodymyr Zelensky n'a fourni aucune preuve spécifique à l'appui de cette affirmation. Cela survient alors que la Russie déclare avoir plus ou moins pris le contrôle de Mariupol, le théâtre des combats les plus violents de la guerre. L'affirmation ne peut être vérifiée de manière indépendante. Mariupol serait la première ville à tomber aux mains des Russes depuis qu'ils ont envahi l'Ukraine le 24 février dernier. Analyse de Marie Dumoulin. Du Conseil européen des relations internationales. Elle est sur RFI.
Pour l'instant, les Occidentaux estiment que les menaces russes ont peu de chances d'être mises à exécution parce qu'ils pensent que les Russes n'iront pas jusqu'à adopter des mesures de représailles à l'encontre des Occidentaux. En revanche, ils estiment indispensable de soutenir l'Ukraine pour éviter qu'elle ne se retrouve obligée à capituler, ce qui aurait des conséquences potentiellement graves pour la sécurité européenne. Ça signifierait que les frontières d'un État souverain sur le continent européen se trouveraient modifiées par la force, ce qui ne s'est jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale. L'objectif des Occidentaux est de rééquilibrer en fait le rapport de force sur le terrain et de permettre à l'Ukraine de continuer à faire face à l'offensive russe.
La campagne pour le deuxième tour de l'élection présidentielle en France se poursuit. Emmanuel Macron était à Marseille hier. Marie de Chavron, RFI.
Emmanuel Macron était à Marseille cet après-midi pour son premier grand meeting de l'entre-deux-tours avec une annonce. S'il est élu, le Premier ministre sera directement chargé de la planification écologique avec comme mission faire de la France la première grande nation à sortir du pétrole, du gaz et du charbon. Le président sortant veut convaincre les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot. Il s'en est pris à son adversaire Marine Le Pen.
À tous nos compatriotes qui aujourd'hui hésitent, se sont abstenus ou n'étaient pas à nos côtés. Le choix est clair aujourd'hui. L'extrême droite est un projet climato-sceptique, un projet qui veut sortir des ambitions actuelles de l'Europe du climat, qui veut détruire les éoliennes. L'un des seuls projets de cette campagne qui n'y croit pas. Nous, nous y croyons et nous le ferons. Ne cédez pas à la peur ou à quoi bon. Ne cédez pas au grand relativisme qui consisterait à dire tout se vaut, celui qu'on n'aime pas forcément et qui est encore en marche. Et l'extrême droite, parce qu'on vous a forcé la tête que c'était la même chose. Non, ça n'est pas la même chose.
Marine Le Pen était à Saint-Rémy-sur-Avre et il était question de port du voile. Reportage Julien Chavanne, RFI.
Le sujet s'est invité à plusieurs reprises ce vendredi sur le marché de Pertuis dans le sud, le port du voile. Marine Le Pen veut l'interdire, mais sur le tempo et l'ampleur de cette mesure, la candidate fait un pas de côté.
Ce sont des problèmes qui sont des problèmes complexes, j'en suis parfaitement consciente de cela, je ne suis pas obtus.
Interdire le voile seulement aux petites filles, y aura-t-il des exceptions, des questions qui seront tranchées par le Parlement, évacue Marine Le Pen.
L'Assemblée aura son mot à dire. Je ne peux pas faire plus démocratique que ce fonctionnement-là.
Marine Le Pen ne veut brusquer personne sur le voile. C'est pourtant un totem pour l'extrême droite, une ligne rouge dans son camp, mais mais aussi chez Éric Zemmour. Mais la candidate RN est obligée de jouer la modération pour attirer les voix de gauche.
Je vais diriger le pays en mère de famille, voilà, avec bon sens, avec cohérence, sans excès, sans outrance.
Un grand écart entre l'extrême gauche et l'extrême droite qui sème le doute chez une partie de son camp. Faut pas se perdre, l'équilibre est difficile, s'inquiète un ancien stratège RN, alors que les reports de voix des électeurs d'Éric Zemmour sont moins forts qu'espérés.
Les chrétiens du monde célèbrent Pâques au Vatican. Le pape François a pris la parole lors d'une messe de la veillée pascale. Il a dit la messe sur la place Saint-Pierre et il a délivré son message et sa bénédiction connue sous le nom d'Urbi et Orbi. C'est la première fois depuis 2019 que le public est autorisé à assister aux activités de la Semaine Sainte en raison des restrictions liées au Covid-19. Le pape a profité de la messe de la veillée pascale pour dénoncer la guerre en Ukraine.
In questo buio che voi vivete.
In this darkness that you live in, Mr. Mayor, members of Parliament, the darkness of war, of cruelty, tonight all of us pray. We pray for you and with you. We pray because there is so much suffering. We can only give you our company, our prayers, and say to you, courage, we accompany you. And also to tell you the greatest thing that is being celebrated today. Christ is risen.
L'archevêque de Canterbury a, dans son discours de Pâques, condamné le projet du gouvernement britannique de réinstaller certains demandeurs d'asile au Rwanda. Le chef de l'église anglicane, Justin Welby, déclare que le plan est à l'opposé de la nature de Dieu. Larry Botinick, juriste avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, a aussi condamné le plan. Il déclare que l'expérience précédente d'une politique similaire en Israël montre que l'approche britannique est contre-productive.
You know, I worked in Israel before I came to the UK. They were sending on a voluntary basis Eritreans to Rwanda, Sudanese to Uganda, and you know, people moved on from Rwanda within a week. So it doesn't deter smuggling, it promotes it.
Analyse maintenant de la signature de ce contrat entre le Rwanda et la Grande-Bretagne avec Laure Broulard, RFI.
Dès 2014, un accord très opaque avec Israël crée la polémique. Il prévoit déjà l'envoi de demandeurs d'asile vers l'Ouganda et le Rwanda. Mais une fois arrivés en Afrique centrale, beaucoup de ces migrants sont vite repartis. Kigali parle aujourd'hui d'un projet pilote rapidement abandonné. En 2019, le Rwanda accepte d'accueillir des réfugiés évacués de Libye par le HCR, le temps que leur demande d'asile soit examinée par des pays occidentaux. Plus récemment, Kigali a également reçu des Afghans fuyant les talibans, notamment les élèves et le personnel d'un internat pour jeunes filles. Enfin, le pays est en discussion avec le Danemark qui souhaite y externaliser ses demandes d'asile. Autant d'initiatives qui permettent au Rwanda de Paul Kagame, critiqué pour sa répression de la liberté d'expression et de l'opposition, de se faire connaître comme un pays sûr, accueillant et comme un partenaire intéressant. Dans le cas de l'accord avec le Royaume-Uni, c'est aussi une opportunité économique, puisque Londres a déjà promis un investissement de près de 145 millions d'euros pour soutenir le développement du pays.
Le dernier bilan des inondations en Afrique du Sud est de 398 morts et 27 personnes disparues. La pluie est de retour à Durban. Des milliers de personnes ont été déplacées, comme l'explique Romain Chanson pour RFI.
Dans une grande salle où l'air circule peu et où la lumière ne pénètre presque pas, ils sont une centaine, femmes et enfants, à se reposer, allongés sur le sol. Ils habitaient le quartier informel de Mega Village, à quelques mètres en contrebas. Koliswan Kobo a trouvé refuge ici, en urgence. Pour elle, l'histoire se répète.
Je ne vais pas bien du tout. On a déjà eu les mêmes problèmes d'inondation en 2019. Même le président est venu nous voir et rien n'a changé. En 2020, j'ai un enfant qui est mort dans cette rivière. À chaque fois que je vois la rivière, je pense à mon enfant.
Dans la salle d'à côté, c'est la cuisine improvisée. Les volontaires préparent du café et distribuent du pain de mie. Du poulet en trop faible quantité décongèle. C'est aussi le dortoir des hommes, comme Sianda Kunyana. Il est dans le dénuement le plus total.
On survit, on n'a rien à manger ni où dormir. Et il n'y a plus de maison, on a tout perdu, même nos papiers d'identité. Ne reste plus que la santé, c'est le plus important.
Des hommes en chasuble viennent d'arriver. Ce sont des travailleurs sociaux qui enregistrent pour le gouvernement chaque situation pour ensuite évaluer les besoins. Mais à vue d'œil, c'est simple, rien ne va.
Et on passe à la météo pour ce dimanche en Australie. À Perth, il fera 24 degrés. Adélaïde, 25. Melbourne, 28. Hobart, 26. Canberra, 23. Sydney, 24. Brisbane, 26. Cairns, 29. Darwin, 34. Et à Alice Springs, maximal de 36 degrés. Un rappel des grands titres de ce 17 avril. Demain lundi, c'est le dernier jour pour que les Australiens s'inscrivent pour voter lors des prochaines élections fédérales. Les élections auront lieu le 21 mai prochain. Le pape a profité de la messe de la veillée pascale pour dénoncer la guerre en Ukraine. C'est la fin du journal. Merci de rester avec nous.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.